Luxembourg. Bonjour Luxembourg. Allô Luxembourg. Le rendez-vous hebdomadaire en grande région transfrontalière du collectif Moselle Aveyron sans frontières. Herzlich willkommen. Bienvenue à tous. Mayenne, hallo, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être avec nous. Willkommen und vielen Dank wieder dabei zu sein. Bienvenue sur Mayenne Luxembourg, donc votre émission de découverte et de rapprochement culturel entre le Luxembourg, la grande région transfrontalière et l'Aveyron autour de Villefranche de Rouergue que nous enregistrons aujourd'hui à Villefranche de Rouergue justement au studio de CFM et qui est diffusé bien sûr sur CFM Radio et sur Bleu Radio, du côté de Metz en Moselle. Avec nous en studio pour une deuxième émission spéciale, Michel Lombard. Bonjour Michel, Bunchun Michel, Moyen Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment allez-vous? Wie geht es Ihnen?
Très bien, je suis très heureux des progrès que vous avez faits en Occitan.
Ah oui, aujourd'hui je sais dire Bunchun. Bonjour. Merci Michel d'être avec nous. Je rappelle à Michel, vous êtes donc né non loin de Villefranche, à La Fouillade très exactement, et enfant du pays, donc fin connaisseur de ce territoire ouest aveyronnais, mais de tout l'Aveyron en fait, en général et en particulier, si j'ose dire. Vous êtes parti à Toulouse pour faire carrière à Toulouse et vous êtes revenu dans l'ouest Aveyron, toujours du côté de La Fouillade, et vous vous êtes mis à écrire sur votre territoire natal, votre territoire d'inspiration et de prédilection. Aujourd'hui, il est question de votre dernier ouvrage qui s'intitule « Jean d'ici de Villefranche de Rouergue ». C'est une galerie de portraits, en fait, d'une centaine en fait, de personnalités ayant vécu, étant passé par ou étant né à Villefranche de Rouergue, donc en Aveyron, dans l'ouest Aveyron, tout particulièrement. Donc, aujourd'hui, avec vous, avec Michel Lombard, nous nous proposons de réaliser une espèce de carte postale radiophonique sur Villefranche de Rouergue pour vous offrir, en fait, notre regard sur Villefranche de Rouergue, nos regards croisés, celui de Michel Lombard, enfin connaisseur du territoire de Villefranche, et le mien, en candide, émerveillé par ce territoire que j'ai découvert, donc, en 2019, mon territoire d'adoption depuis lors, et je me partage donc avec cette grande région transfrontalière autour du Luxembourg. Alors, la méthode que j'ai un peu employée pour préparer cette émission, c'est que je me suis donc projetée et mise dans la peau de la personne, effectivement, qui découvre la ville de Villefranche de Rouergue. Et quand on arrive à Villefranche de Rouergue, eh bien, on est saisi déjà par la beauté du patrimoine architectural, mais aussi on est interpellé par plusieurs panneaux. Les panneaux d'information, hein, tout simplement. Et donc, on découvre que Villefranche de Rouergue, c'est une ville d'art et d'histoire. On découvre que Villefranche de Rouergue, c'est une bastide. C'est une bastide, pas seulement une bastide, mais une bastide royale, comme il y en a peu. C'est aussi un grand site d'Occitanie qui s'appelle Bastide et Gorge de l'Aveyron. Mais à Villefranche de Rouergue, il y a aussi ce deuxième fonds national de jazz, un fonds documentaire, donc, Hugues Panassier. Alors, tout de suite, on se demande, quand on voit ce panneau, puis ce grand disque 33 tours, en fait, qui est érigé sur un rond-point, en fait, avant d'arriver dans la ville de Villefranche de Rouergue, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ce fonds de jazz et qui était Hugues Panassier? Et moi, j'ai vérifié, effectivement, il fait partie des personnalités et de votre galerie de portraits qui se trouve donc dans votre ouvrage, Michel Jean d'ici de Villefranche de Rouergue. On peut expliquer un petit peu ce que c'est que ce fonds de jazz Hugues Panassier?
Alors, Hugues Panassier, faut savoir qu'il a vécu à Villefranche de Rouergue une partie de son enfance. Il était copain avec Robert Fabre, qui par la suite deviendra maire de Villefranche.
Oui, c'était le pape du jazz, on dit, non,
Hugues Panassier? C'était le pape du jazz. Alors, en fait, c'était un producteur de jazz, un critique de jazz, et puis un grand collectionneur. Donc, à son décès, il y avait tout un fond de papier qu'il avait récolté, mais également des enregistrements, parce qu'en qualité de producteur, il en avait récupéré beaucoup lui-même, mais il en avait acheté beaucoup. Et ce fonds a été mis en vente. Et Robert Fabre, qui était alors maire de Villefranche de Rouergue, a pu la récupérer en 1974, a pu récupérer ce fonds important, Et il est disponible actuellement à la médiathèque de la ville. Et c'est très important pour la ville, pour le jazz, parce que c'était le pape du jazz, comme vous l'avez dit, et une personnalité éminente de cette activité artistique.
Oui, alors je crois que ce front de documentaire comporte en fait des dizaines de milliers de documents d'archives exceptionnels que viennent consulter non seulement des passionnés, des amoureux du jazz, mais aussi des grands experts du jazz. C'est quand même le deuxième fonds national de jazz à Villefranche-d'Auvergne.
Oui, oui, c'était quelque chose de capital et de très important pour la ville.
Oui, alors il est librement consultable à la médiathèque. Voilà. Je crois qu'en ce moment, il faut prendre rendez-vous. Donc, il est facile d'aller sur le site de la ville de Villefranche-d'Auvergne, tout simplement, ou de passer un coup de fil pour prendre rendez-vous et consulter tout simplement ce fonds d'archives et de documents sur l'histoire du jazz.
Voilà, les passionnés peuvent venir à Villefranche, ils seront bien reçus pour se plonger dans ces archives.
Oui, alors Hugues Panassier, justement, il a été producteur, critique, passionné de jazz. Je crois qu'il a été un peu musicien lui-même aussi.
Il a été musicien également. Oui.
Oui, hein. Et je crois qu'il a introduit, si on peut dire, entre autres, Louis Armstrong, en France notamment, peut-être même en Europe.
Ben oui, Armstrong, Sidney Bechet aussi. Oui. Il en a introduit un certain nombre. Oui, ça a été une partie de ses activités.
Oui, alors il a été passionné donc par Louis Armstrong en particulier. On revient à Louis Armstrong, parce qu'il lui a consacré en fait un ouvrage entier, je crois, sur Louis Armstrong.
Oui, oui, alors, il s'est particulièrement appliqué pour évoquer Louis Armstrong. Oui.
Avant d'évoquer Villefranche-de-Rouergue dans son patrimoine, dans son architecture et dans sa magnificence, j'allais dire, on va tout simplement resituer Villefranche-de-Rouergue. Villefranche-de-Rouergue, c'est donc une ville moyenne, on va dire, de 12 000 habitants, ville phare du territoire couvert et géré par Ouest Aveyron Communauté.
Oui.
Bordée par la rivière Aveyron.
Oui.
Et qui offre, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue moi quand je suis arrivée à Villefranche-de-Rouergue, c'est ma ville coup de cœur, hein, Villefranche-de-Rouergue. J'ai été vraiment saisie, sans savoir où je mettais les pieds réellement. J'étais saisie par la convivialité, en fait, de sa physionomie en particulier. C'est ce que je me suis dit, c'est les mots que j'avais en tête à ce moment-là. Je me suis dit, tiens, la physionomie de Villefranche-de-Rouergue est très particulière, ça lui confère vraiment une grande convivialité. On a l'impression que tout est resserré, en fait, autour, toutes les rues sont resserrées autour de cette magnifique place Notre-Dame à Villefranche-de-Rouergue, sur laquelle trône une non moins magnifique collégiale. Et puis, ben, quand vous faites le tour, vous voyez, en fait, et vous vous dites, mais on est à quelle époque à Villefranche-de-Rouergue ? On a l'impression d'être de retour un peu au Moyen-Âge, quelque part. Au Moyen-Âge ou peut-être un peu plus tard, à la Renaissance
au Moyen-Âge, parce que la création de la Bastide date de 1252. Elle a été créée par le frère de Saint-Louis, Alphonse de Poitiers, Alphonse de France. Et donc, elle date de cette époque-là.
Oui, parce que nous sommes dans le pays des Bastides du Rouergue. Vous pouvez nous rappeler simplement, qu'est-ce qu'une Bastide, justement ? C'est une ville particulière. Alors, mais en quoi ?
Des Bastides, c'était des villes neuves. Oui. D'ailleurs, on trouve l'appellation Villeneuve ou Villefranche. Et une Villeneuve, une Villefranche qui bénéficiait d'avantages fiscaux, on dirait aujourd'hui, pour que les gens viennent s'y implanter. C'est des villes nouvelles, quoi, en fait.
Pour que les gens et les commerçants, alors, j'allais
dire. Oui, les gens, les commerçants. Alors, elles répondaient toutes à une architecture qui était identique, c'est-à-dire une place centrale avec des arcades, un couvert. On retrouve un petit peu ça, place Saint-Louis à Metz également.
Oui, c'est vrai. Vous connaissez bien votre géographie moderne. Voilà.
Et puis également des rues qui sont perpendiculaires et qui sont bien droites, qui sont bien tracées, ou alors qui au contraire sont un colimaçon tout autour de la place centrale.
Oui, ben c'est ça. En fait, toutes les rues se rejoignent en fait et amènent vers cette magnifique place.
Vers la
Notre-Dame.
Place et surtout vers la collégiale. Oui. Ou vers l'église, ou vers,
cette église, oui.
ou vers la cathédrale, selon les Bastides. Voilà.
Oui. Pourquoi on l'appelle collégiale, justement, l'église qui trône sur la place Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue ? Pourquoi c'est une collégiale, justement ?
Ah ben, l'église, c'est avec un nez minuscule, c'est un terme générique, ce sont les bâtiments qui accueillent les pratiques religieuses. Bon, il y a les cathédrales et les collégiales, on les appelle collégiales parce que c'est un nom que leur donne leur attribution attribue le Saint-Père, le pape, à un collège de chanoines. Il faut un collège de chanoines pour avoir une collégiale. Voilà.
D'accord.
Et donc... puis ensuite, on part dans les abbayes, les abbatiales, pardon, les églises, les chapelles, les... Voilà, on peut décliner ça à l'infini.
Alors, on est frappé aussi par la qualité et puis la couleur des vieilles pierres, en fait, avec lesquelles sont construits tous ces bâtiments magnifiques. Une pierre un peu claire, comme ça. D'où vient-elle, cette pierre grise, blanchâtre, mais très lumineuse, en fait?
Oh ben la pierre, autrefois, on n'allait pas la chercher très loin.
Oui.
On utilisait la pierre qui était sur place. Alors, Villefranche se trouve bâtie, la Bastide en tout cas, parce que la première ville était de l'autre côté de la rivière, elle est bâtie rive droite. Et rive droite de la rivière Aveyron, ce sont les derniers ou les premiers contreforts du Quercy, du Causse du Quercy. Ça veut dire que la mer venait jusque-là autrefois. Et c'est du calcaire, donc.
Ah oui.
Et on a construit la collégiale et la plupart des maisons avec ces pierres de calcaire.
Ah oui, effectivement. Mais c'est vraiment magnifique et lumineux, en fait. Quand le soleil est présent, ça devient éclatant. Et cette fameuse place Notre-Dame est d'autant plus éclatante encore, non seulement quand il y a le soleil, mais aussi les jours de marché à Villefranche-de-Rouergue, qui, ça aussi, je l'ai constaté tout de suite, sont une véritable institution dans l'Ouest Aveyron, certainement dans tout l'Aveyron aussi. Mais ce marché hebdomadaire, il en a trois en fait, hein, Villefranche-de-Rouergue. Le marché du jeudi, c'est la fameuse institution touristique fréquentée non seulement par les touristes, mais aussi par tous les locaux. C'est presque un rendez-vous, alors terroir, gastronomique, mais culturel et convivial aussi, ce marché. Pourquoi et comment est-ce devenu une telle institution, ce marché de Villefranche-de-Rouergue?
Enfin, on peut dire que d'une certaine façon, le marché est l'héritier des foires d'autrefois, qui étaient très importantes. Et la retombée rurale qui venait à Villefranche était de l'ordre de 30 km autour de la ville. On venait vendre les bestiaux, on déjeunait sur place pour... manger une partie de la vente des produits, et puis on rentrait chez soi le soir tard, mais on passait la journée à la ville. Et ça, je pense que ce marché rappelle dans l'inconscient collectif ou le subconscient collectif rappelle un petit peu cette période-là, et on continue à venir à 30 km à la ronde jeudi matin pour venir faire le marché.
Voilà. Oui, et puis j'allais dire, moi je fais le lien avec cette fameuse Bastide, hein, vous me disiez tout à l'heure, les Bastides, ce sont des villes nouvelles moyenâgeuses, médiévales, donc qui au départ ont été faites pour le commerce, pour favoriser le commerce en fait. Et donc là, effectivement, elle doit avoir quand même quelque chose qui favorise le commerce, l'établissement des différentes stands, etc. Parce qu'il y en a à foison et il y a surtout des producteurs du terroir. Alors là, si vous êtes gourmand, vous allez être vraiment servi. Qu'est-ce qu'on y trouve sur les marchés de Villefranche-de-Rouergue en particulier, mais ailleurs dans l'Ouest Aveyron?
Oh ben, on trouve un petit peu toutes les productions locales. Il y a même des restaurateurs qui viennent proposer des plats cuisinés.
Oui.
Mais les productions locales, il y a des produits à base de canard, bien sûr, parce que le foie gras tient une bonne place dans la région.
Le foie gras, les figues farcies, le foie gras de canard, par exemple,
voilà,
aussi.
On trouve un tas de choses, des produits dérivés du canard. On trouve des farces, souvent on trouve des spécialités un petit peu locales qu'on ne trouve pas ailleurs.
Oui, alors moi j'ai relevé et j'ai goûté aussi, hein, forcément... À l'aligot, le fromage de chèvre, le fromage de brebis, en fait, hein, qui a une très bonne cote aussi ici. Le fromage blanc, bien sec, en fait.
Oui, oui.
Là, je ne sais plus comment...
Les cabécous.
Les cabécous, voilà, oui. C'est d'ici aussi. Et puis, quoi d'autre? Donc, les farsous, vous en avez parlé. Il y a aussi ces fameux gâteaux à la broche, la foisse, incontournable foisse, bien sûr. Le massepain.
La pompe à l'huile.
À la pompe à l'huile, ça, je ne connais pas. Ouais. La truffade, hein, au hasard.
Voilà.
Et puis, mais je crois que vous aviez une petite recette de farsou, en fait, à partager avec nous. Mais vous me disiez tout à l'heure que le farsou, c'était... en fait, moi, je le rapproche à nos râpés de pommes de terre, qui est une spécialité luxembourgeoise, qu'on appelle, en luxembourgeois, les Kromperkilschelscher, ou bien les Pannekuchen, ou bien encore Kartoffelpannekuchen, tout simplement. En fait, ce sont des râpés de pommes de terre. Le farsou se présente un peu comme le râpé de pommes de terre, mais il est fait à base des derniers végétaux verts du jardin, je crois. Hein.
Tout à fait, oui. Si vous voulez la recette, je peux vous la donner rapidement. Pour faire des farsous, il faut le vert de 4 ou 5 blettes, Il faut une demi-botte de persil frais. Il faut un oignon, deux gousses d'ail, 50 g de chair à saucisse, 4 œufs, 2 cuillères à soupe de farine, 10 centilitres de lait et de l'huile.
Voilà, alors ça c'est une recette ancienne, mais aujourd'hui je crois qu'il n'y a plus de chair à saucisse dans les farsous. C'est essentiellement des galettes en fait, de légumes,
des
légumes de saison.
Oui, tout à fait, parce que bon, l'influence des véganes et des végétariens fait que... Mais en fait, les authentiques, il y a de la chair à saucisse à l'intérieur.
Voilà, donc on en trouve hein, toujours sur les marchés, surtout en cette saison, comme l'aligot d'ailleurs, qui souvent est préparé devant vous, dans un gros chaudron avec une immense cuillère en bois et dont les marchands font vraiment filer l'aligot comme il se doit, puisqu'il est fabriqué à base de tomes d'aubrac fraîches. C'est ce qui fait qu'en fait, il peut filer. C'est en fait une forme de purée de pommes de terre. C'est de la purée de pommes de terre avec de la crème et de la tome d'aubrac fraîche qu'on chauffe tout doucement et puis qu'on fait filer. En fait, c'est tout l'intérêt folklorique de l'aligot. Mais on en a déjà parlé dans une émission. Je voudrais revenir avec vous, puisqu'on parle produits du terroir, ça m'évoque en fait les contes et légendes, bien sûr. Et puis nous sommes au mois de décembre, période de fête. S'il en est, nous avons dernièrement parlé de Saint-Nicolas. Nous avons fait une émission spéciale Saint-Nicolas à Nancy pour ce fameux week-end de la Saint-Nicolas. Et aujourd'hui, donc, je voudrais vous parler de Saint-Nicolas, parce que j'ai découvert en arrivant ici justement que Saint-Nicolas ne fait pas partie finalement de la culture locale. Bien que à Villefranche, depuis quelques années, l'association des commerçants de Villefranche organise une petite manifestation autour de Saint-Nicolas. Cette année, par exemple, il y aura une séance de contes et légendes qui se passera au cinéma, je crois, avec un goûter. Ensuite, pendant lequel ils offrent, en général, en tout cas, c'était le cas l'année dernière, un grand bonhomme en fait.
Pain d'épices.
Brioche. Non, c'est pas un pain d'épices. Ici, on a fait le grand bonhomme, le Kuchenmännchen en fait, c'est-à-dire un bonhomme en forme de... Non, un gâteau, une brioche plutôt, en forme de bonhomme. Donc, l'association des commerçants fait concocter un immense Kuchenmännchen et le distribue donc aux enfants. Pourquoi Saint-Nicolas n'a pas le droit de citer ici, alors que c'est quand même le saint patron des écoliers, des enfants, des mariniers, des éclusiers, on est à côté de l'Aveyron. Moi, j'ai pas compris.
Ben vous savez, jusqu'à ce que vous arriviez, on ne connaissait que Nicolas Hulot et Nicolas Sarkozy. Bon, maintenant, il y a Saint-Nicolas qui vient s'ajouter à la liste. Mais c'est une culture qui vient de la région de l'Est, mais qui n'a pas traversé le Massif central, à l'évidence.
Oui, de l'Est, de la Russie, de l'Allemagne, oui. Du Luxembourg. En Suisse, on fête aussi Saint-Nicolas beaucoup. Enfin, en Europe centrale et en Europe du Nord en particulier, voire même aussi en Italie, puisqu'il y a des reliques de Saint-Nicolas dans le sud de l'Italie, à Bari,
oui.
Notamment. Donc, on parle la légende de Saint-Nicolas et produit du terroir. Donc, le produit du terroir qui va avec la légende de Saint-Nicolas, c'est donc le Kuchenmännchen, comme je l'ai indiqué, mais vous le disiez aussi, Michel, ce fameux pain d'épices à l'effigie de Saint-Nicolas en général. Donc, on découpe une image de Saint-Nicolas qui, dans le temps, en fait, était une image réalisée à Épinal, à l'imagerie d'Épinal. Donc, et ici, alors, puisque quand même, je m'aperçois que Saint-Nicolas, pour moi, est d'autant plus important aujourd'hui que je suis un peu éloignée de ma région transfrontalière et j'ai envie de faire partager en fait cette culture, cette liesse qu'il y a en Lorraine autour de Saint-Nicolas. Est-ce qu'il y aurait l'équivalent ici d'une légende ou d'un conte que tous les enfants ouest-aveyronnais et de Villefranche connaîtraient en particulier ?
Pas vraiment, non. Mais par contre, on peut mettre en parallèle de Saint-Nicolas une sainte ville franchoise,
oui.
Sainte-Émilie de Roda, qu'on peut exporter en Lorraine et en Alsace, qui n'est pas connue là-haut, mais qui est très connue et très vénérée dans le pays.
Ah oui ?
Qui était très vénérée autant que Saint-Nicolas a pu l'être dans l'Est.
Ah oui, c'est vrai ?
Sauf que Saint-Nicolas a relié son nom à des fêtes plutôt païennes, quand même.
Plutôt festives, ludiques.
Plutôt festives, mm-hmm. Alors que Sainte-Émilie de Roda est restée, elle, dans le registre de l'enseignement et de la religion.
Ah oui, c'est étonnant, parce qu'effectivement, c'était l'évêque de Myre, hein, Saint-Nicolas, donc un ecclésiastique. Hein.
Oui.
Et alors, comment célèbre-t-on ici Émilie de Roda ?
Oh, ben maintenant, à peu près comme toutes les fêtes religieuses, c'est-à-dire plutôt discrètement.
D'accord. Et les enfants d'ici connaissent Émilie de Roda ?
je ne crois plus beaucoup maintenant. Mais pourtant, c'est une dame qui a marqué son époque en implantant un petit peu en France, un petit peu partout, et dans le monde également, des écoles.
Ah oui. Et puis alors, si on reste sur la question des contes, parce que vous avez écrit aussi quelques ouvrages de contes et légendes. Hein. Le dernier en date, c'est, je crois que c'est le dernier en date, hein, Contes et légendes d'Urouergue, Villefranchois, Causse et Ségala. C'est bien ça?
Tout à fait.
Hein, aux éditions Toute Latitude, que je possède d'ailleurs, et dont je me fais un malin plaisir de lire quelquefois en diagonale, mais pour y revenir ensuite et me replonger en fait dans ces légendes. Et bien souvent, j'y vois en fait des points communs avec la réalité de ce que je vis sur le territoire. Donc, est-ce qu'on a encore quelques secondes peut-être pour parler des croquants de Villefranche en deux, trois mots?
Alors, les croquants de Villefranche ont sévi, si j'ose dire, à la même époque que les autres croquants dans la France.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un croquant ?
C'était une période où les paysans étaient écrasés d'impôts.
D'accord.
Et ils se sont révoltés à Villefranche en 1643 contre le pouvoir royal.
D'accord.
Et il y a eu des heurts qui ont été très violents. À Villefranche, il y a eu trois meneurs principaux, Jean Petit, qui est très connu.
Ah oui. Qui a fait l'objet d'une chanson, bon, en fait, d'une comptine, on va dire.
Oui,
Jean Petit qui danse.
Jean,
hein.
Petit qui danse.
Jean Petit qui danse, c'est ça.
Il y a eu Brasque, qu'on appelait la paille, et il y a eu Calmel, ce qu'on appelait la fourque. Alors ces gens-là se sont battus contre le pouvoir royal, ils ont été arrêtés et ils ont été roués vifs. Et on appelait ces révoltes paysannes les révoltes des croquants.
D'accord.
Mais elles eurent lieu un petit peu partout en France.
Oui, c'est vrai. Et mais les enfants ont encore ça en tête, parce que je crois que l'association des commerçants de Villefranche propose un jeu autour des croquants de Villefranche. En fait, c'est comme ça que ça m'est apparu, en fait.
Oh, ouais.
Voilà. Bon, eh bien, c'est déjà la fin de notre émission, Michel, de notre deuxième émission spéciale sur Villefranche d'Urouergue. On a fait fort quand même, hein, puisque nous avons 22 minutes d'émission, nous les avons respectées. Je vous remercie. Un grand merci pour avoir participé à ces deux émissions et m'avoir appris tant de choses sur Villefranche et les environs. J'espère à bientôt.
À bientôt, à votre disposition.
Merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Merci à vous
très
aussi
bientôt, Michel.
Et bonne Saint-Nicolas.
Merci, vous aussi. À très bientôt à tous. Merci de nous avoir suivis. Eddie, salut tout le monde. Hallo, tschüss, grosse région und bis bald. Tschüss.